Ouais.
Chronique sceptique avec Sylvain Daigle.
Sylvain, 7h35, bon matin.
Bon matin, Charles, comment ça va?
Ça va bien,
oui.
Toi?
Ah, oui,
vaccin, par contre, je sais pas, là. Il y a des pour, il y a des contre.
Oui, bien c'est ça, je veux pas tomber non plus dans un débat, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, mais indirectement, on va le faire un petit peu à travers certaines données peut-être scientifiques qui existent. Si tu permets, on pourra regarder ça sous l'angle de pourquoi les gens refusent de se faire vacciner. Il existe essentiellement trois raisons, trois grandes raisons. Là.
Quand on parle des vaccins, bien sûr, on parle des classiques, là, ce qu'on donne aux enfants.
Oui, ben c'est ça aussi, parce que la vaccination, c'est quand même assez large. Il y a plusieurs types de maladies, il y a plusieurs types de vaccinations aussi. Donc, si on prend juste le grand principe de la vaccination, ça fait l'unanimité en termes scientifiques. Là. Le principe même de la vaccination, c'est reconnu même par la science comme étant l'un des plus grands succès de la médecine dans le domaine de la santé publique. Donc, ça, c'est...
Donc, au-delà des lobbies des grandes pharmaceutiques.
Oui, c'est ça. C'est sûr que, des fois, il y a des compagnies qui peuvent faire de l'argent avec ça, mais ce n'est pas une raison pour rejeter la vaccination du revers de la main.
Elle profite de la vague, finalement.
Oui, absolument. Puis là, à savoir, est-ce que dans tel type de maladie, dans tel cas dans l'histoire, est-ce que la vaccination était nécessaire, tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, bon, là, il y a différents contextes.
Et tu n'es pas docteur non plus.
Effectivement, c'est un très bon point. Donc, trois grandes raisons pourquoi les gens peuvent refuser ou, en tout cas, avoir peur un peu de la vaccination. La première raison, c'est qu'il y en a qui disent, par exemple, qu'il n'y a pas de lien causal entre le vaccin et la diminution des maladies. Donc, autrement dit, le vaccin n'aura pas d'impact sur
coup d'épée dans l'eau.
Un peu, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Mais ça,
bon, on l'entend souvent.
Oui, on l'entend souvent, effectivement. C'est une des raisons. C'est faux. Si on regarde, par exemple, sur le site de Santé et Services sociaux Québec, donc des sites quand même gouvernementaux, on a un tableau qui nous donne un peu ce qui s'est passé pour certaines maladies à travers les années. Donc, avant les périodes de vaccination et après. Par exemple, si on prend la diphtérie, la vaccination a débuté dans les années 30, là, 1930. Avant la vaccination, il y avait à peu près 9000 cas de maladies au Canada avant la vaccination. Et après, 0 ou 1, donc des cas annuels. Là.
Donc, on a éradiqué littéralement.
On a éliminé la diphtérie au Canada. La poliomyélite, avant la vaccination, donc on parlait de 1500 cas annuels. Puis après la vaccination, 0. Encore là, on l'a éradiqué au Canada. La rougeole, donc maladie quand même assez importante, là. Il y avait 200 000 à 300 000 cas par année avant 1970, donc l'année où a été introduite la vaccination. Et après, on parle de 200 cas annuels, donc c'est énorme, là. C'est la diminution. Et finalement, je ne passerai pas tous, mais la variole, qui est une maladie qui a fait des ravages un peu partout dans le monde, elle a été carrément éradiquée le 26 octobre 1977. Si on me dit le 26 octobre, c'est précis, n'est-ce pas?
Oui, mais... c'est aujourd'hui que c'est fini.
C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. En fait, c'est la date du dernier cas qui a été remarqué en Somalie. Donc, il y a eu un dernier cas depuis ce temps-là.
Ben, c'est quand même pas banal comme statistique.
Non, effectivement. Ça, c'est disponible sur le site des Santé et Services sociaux Québec.
Donc, ce point de vue-là tient plus ou moins ou pas du tout?
Non, bien ça, on a fait des liens. Là. Les études scientifiques démontrent très clairement le lien direct, donc le lien causal entre la vaccination et l'éradication des maladies ou la diminution des maladies. Bon. Donc, ça, c'est très clair là-dessus. Si on regarde au Québec, plus près de nous, il y a la communauté de l'Esprit-Saint.
Ben
là,
oui, tout récemment, ça fait à peu près quoi, deux semaines, ouais, trois semaines?
Bien, c'est les cas augmentent pratiquement de jour en jour. Là, on parlait de 10 cas au départ. Là, on est rendu à 32 cas de personnes qui sont
dans la Naudière et même, là, ça commence à déborder un petit peu ouais, ben, aux alentours.
Ce qui est un peu intéressant dans ce cas-ci, c'est que c'est une communauté quand même assez fermée. Donc, ce sont tous des personnes qui n'étaient pas vaccinées par principe religieux, si on peut dire. Là.
Qui, en fait, là, en substance, qui disent, c'est que la santé, c'est quelque chose qu'on a en nous. On n'a pas besoin ni de médecin, ni d'hôpitaux, ni de médicaments.
Donc, ils n'encouragent pas la vaccination, effectivement. Donc, c'est ça. Ces personnes-là, comme ils vivent un peu cloisonnés, ça limite la propagation de la maladie. C'est ce qui est une bonne nouvelle en soi.
Oui.
Donc, ça, c'est la première grande raison. Deuxième grande raison, je te dirais, c'est il y en a qui disent que les vaccins carrément causent la maladie. Donc, la maladie qui est supposée...
Oui, on l'entend souvent, ça.
Oui, on entend souvent ça aussi. Et ça non plus, ça ne tient pas vraiment la route en termes scientifiques.
Parce qu'on vaccinerait l'anticorps faible dose.
C'est ça, le concept de la vaccination, c'est de préparer le corps à recevoir éventuellement la maladie. Donc, il y a quatre types de vaccins. Hein. Il y a des vaccins, par exemple, ben, essentiellement quatre types. Il y a un type de vaccin où on utilise un virus qui est atténué, qu'on appelle. Donc, on le magane, on le rend très, très faible, et c'est ce qu'on injecte. Par exemple, dans le cas du RRO, là, rugeole, rubéole et oreillon. Donc, ça, c'est un vaccin qui est atténué. Lui, c'est à peu près le seul techniquement qui pourrait donner la maladie parce qu'il existe le vaccin, pas le vaccin, mais le virus est présent. Est-ce que ça arrive? Ça arrive. En fait, on évite, pour des raisons de précaution, en fait, on évite de donner ça, ce vaccin-là, à des gens dont le système immunitaire est déjà très faible. Par exemple, des gens qui ont le sida, le VIH, et des personnes, par exemple, qui sont greffées. Mm-hmm. Ou quand le système immunitaire est très bas, on évite de donner ce vaccin-là. Mais les autres, soit que le vaccin est inactivé, donc il est carrément mort, donc il ne peut pas donner la maladie, soit qu'il est en sous-unité, c'est-à-dire on l'a découpé carrément, donc il ne fera plus grand dommage à ce moment-là. Ou soit encore là...
qu'acte de présence.
Acte de présence, en partie encore là. Et finalement, le dernier type, c'est qu'il était conjugué, c'est-à-dire que c'est un faux virus qui était déguisé un peu comme un personnage, en tout cas qui est déguisé dans le cas de la méningite.
Ben, qui vient nous permettre de lutter.
Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de renforcer
toutes ces croyances-là d'autisme qui entourent des vaccins. Un enfant allait bien, se fait vacciner, on découvre que... Oh. Et c'est quelque chose qui tient très, très fort, je pense, entre autres, à certaines études.
Oui. Certaines, je dirais certaines E, parce qu'il n'y a pas de S au mot certaines.
Étude.
Il y a une étude de M. Wakefield en 98 qui a présenté... Il avait fait un lien supposé avec l'autisme. En fait, il avait diffusé ça dans une revue quand même assez crédible. La revue s'est rétractée, a enlevé l'article. Par la suite, cet homme-là a été radié carrément de la profession, ne peut plus exercer la médecine depuis ce temps-là. Ça a été démenti, sauf que continue à faire des ravages quand même, parce qu'il y en a qui veulent croire qu'il y a un lien entre l'autisme et tout ça. Le problème avec l'autisme, c'est que le diagnostic de l'autisme se fait généralement entre 18 et 30 mois à la naissance, là, donc l'âge de l'enfant. Et le vaccin se donne entre 12 et 18 mois. Donc les gens, par exemple,
il y a une proximité là, possible.
Ben, c'est ça. Quelqu'un qui se fait donner le vaccin à 18 mois, puis 3 mois plus tard, oh, il développe, en tout cas, il est diagnostiqué autiste. Il y a des gens qui font des liens qu'ils ne devraient pas faire à ce moment-là. C'est démontré, ça.
Bon, on s'arrête là-dessus pour quelques minutes, le temps d'écouter Gaëtan Roussel. Help myself. Ça pourrait avoir un lien avec ce dont on parle ce matin. Par la suite, ben, on va continuer à parler vaccin avec Sylvain Daigle, des sceptiques du Québec.
La radio allumée. FM 103.3.
1111 clients maintenant d'Hydro-Québec du côté du Vieux-Longueuil sont dans le noir. C'était près de 3000 il n'y a pas si longtemps. Donc, on est en train de réparer tout ça. Je dis « on », je m'exclus, bien évidemment. Moi et Sylvain Daigle, oui. Des sceptiques du Québec. Les 61 clients du côté de Brossard, ce n'est pas encore réglé cependant. Voilà. Donc, on continue à parler vaccins. On parle souvent d'homéopathie, de trucs qui pourraient remplacer les vaccins. Je l'ai entendu souvent.
Oui, bien, en fait, la vaccination, elle a un rôle très précis, c'est-à-dire de préparer le corps à recevoir certaines maladies, donc à combattre, à faire développer des anticorps. C'est un peu ça, le vaccination. Fait qu'en ce sens-là, il existe deux façons de développer des anticorps contre une maladie. La première façon, c'est d'avoir la maladie. Donc, carrément, si on a la maladie, par exemple la rougeole, à ce moment-là, on développe des anticorps en prévision d'une prochaine fois.
C'est pour ça qu'on dit très souvent la rougeole, ben, quand on l'a eu une fois, le risque de l'avoir une deuxième fois est assez minime.
Donc, le corps, il connaît la maladie, il sait développer des anticorps, donc il est apte à ce moment-là à combattre éventuellement si jamais ça revenait. Et l'autre seule façon qui existe, c'est le vaccin. Donc, il n'existe pas d'autre façon de stimuler les anticorps.
Une tisane, ça ne peut pas faire la job.
Non, en fait, tout le reste, je vous dirais, l'homéopathie, ça, on l'a vu la semaine dernière, donc on n'y reviendra pas là-dessus. Ça ne fonctionne pas pour la prévention comme telle. Vitamines, herbes,
médicinales. De pissenlit ou quelque chose, non?
Bon, ben c'est ça, les herbes. Puis les vitamines, herbes, le fait simplement de faire de l'exercice, de bien se nourrir, ça, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que votre corps va être plus à même. En tout cas, ça va augmenter les mécanismes de défense générale.
Oui.
Donc, c'est sûr que vous allez être plus apte à combattre certaines maladies en général, sauf que vous n'êtes pas préparé spécifiquement pour une maladie en particulier. S'il arrive un virus que le corps n'a jamais connu, oui, vous avez une meilleure armure en général, mais vous êtes quand même vulnérables, malheureusement. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pas mauvais, évidemment. On peut pas recommander aux gens de ne pas faire l'exercice, que ça sert à rien, pour toutes sortes de bonnes raisons, évidemment.
On se laxe sur l'homéopathie, cependant.
Mais c'est ça. Ça ne développera pas des anticorps, là, tout le reste. C'est à peu près ça. Puis, je comprends jusqu'à un certain point, pas jusqu'à un certain point, mais je comprends vraiment les gens, des fois, de se questionner, parce que surtout quand on parle de nos enfants, les vaccinations commencent assez tôt. En tant que parent, hein, on souhaite toujours le meilleur pour nos enfants, donc on se pose plein de questions, mm-hmm. parce qu'il y a quand même un bon cocktail de vaccination à avoir là, dès le bas âge. Je comprends aussi que les gens, des fois, peuvent ne pas avoir confiance à la science, par exemple, pour différentes raisons, parce qu'entre autres, la science n'est pas parfaite. Il y a plein de choses que la science ne comprend, en tout cas, on ne maîtrise pas encore, ça va venir éventuellement. Mais en termes de connaissance, c'est toujours, comme disait Carl Sagan, la science n'est pas parfaite, mais c'est le meilleur outil de connaissance qu'on ait jusqu'à maintenant.
On connaît pas mieux.
On connaît pas
jusqu'à
mieux.
Présent.
Ben, c'est moi. Ça, tu sais. Puis, nous, on s'est posé la question, ma conjointe et moi, par rapport, entre autres, à nos enfants. On a lu, puis bon, on a essayé de comprendre. Est-ce que c'est correct, ce qu'on fait là? Dans le doute, jusqu'à un certain point, on fait un peu comme au garage. Si, par exemple, quelqu'un ne connaît rien à la mécanique, s'en va au garage, ben si le garagiste te dit que tel produit, il faut qu'on change pour telle raison, qui suis-je en tant que néophyte pour...
Il ne faut pas être naïf, mettre en question.
Non, c'est
quand
ça.
Même...
C'est bien de se poser des questions. On peut juste encourager les gens à lire sur le sujet, mais c'est les sources souvent d'informations qui peuvent nous orienter dans une direction qui n'est peut-être pas souhaitable. Là.
Ben voilà. Donc, merci beaucoup, Sylvain. On parle de quoi la semaine prochaine?
Ça me tente peut-être de parler, parce que là, on est dans une situation un peu particulière. On a eu un vendredi 13 le dernier mois, on a eu un vendredi 13 ce mois-ci. Oui. Donc, on est entre deux vendredis 13. Est-ce que ça porte vraiment malheur? Peut-être qu'on pourrait se questionner là-dessus.
As-tu des statistiques là-dessus?
Bon, on va fouiller quelques...
Vaccin contre le vendredi 13.
Ah, ça serait bon, ça.
On ferait du gros cash.
J'aime ça.
Ah, on s'en reparle. Merci beaucoup. 7h53, la musique de Scheim, La Malice.